I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. Bonjour. Vous êtes sur Radio Calade dans l'émission Vagabondage avec Sylvie Calais. Donc j'ai en effet le plaisir d'animer pour la deuxième fois, mais pour la première fois en direct, cette nouvelle émission de Vagabondage. Et j'ai donc prévu de vagabonder en compagnie de quatre invités. Sandra Bernard, que vous connaissez bien et qui a beaucoup de cordes à son arc et de fils autour de ses bobines, comme vous allez bientôt le voir ou plutôt l'entendre. Bonsoir, bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Catherine Touvenin, qui va nous présenter son activité d'acupunctrice. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sylvie.
Jean-Michel Debilly, que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre, qui va évoquer ce soir une de ses passions qu'on pourrait qualifier de coupante. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir.
Et bien sûr le délicieux, le malicieux, l'incontournable Bertrand Lamure, qui va ce soir nous parler d'abord de jardinage, avant de nous livrer les coups de cœur de la librairie des Marais. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir chère et délicieuse Sylvie.
Sans oublier l'indispensable Mathieu à la technique que nous n'entendons pas, mais sans lequel nous ne ferions pas grand-chose ici, donc on le salue depuis notre micro. Donc le thème de l'émission de juin est « Ça pique ou ça coupe, mais ça fait du bien ». En effet, aujourd'hui, nous allons parler de ciseaux, de couteaux, d'aiguilles et autres instruments tranchants et coupants. Donc, une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer cette émission avec un homme, avec Jean-Michel, qui est sculpteur et qui a prévu d'évoquer pour nous sa passion pour les couteaux. Donc, voilà, je sais que tu es très attiré par les couteaux, que tu te promène toujours avec un couteau dans ta poche. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette passion ?
Cette passion, je pense que ça remonte à très loin, dans l'enfance. Mon premier souvenir, c'était, je pense, vers 10 ans, mon premier couteau acheté à Trévoux, dans une droguerie sur la place de Trévoux. Et pour moi, le couteau, c'était la liberté, c'était pouvoir transformer la matière, couper des bâtons de noisetier, faire des sifflets dans des branches de sureau, faire des bateaux dans les écorces. Le couteau, c'était vraiment l'objet pour transformer la matière.
D'accord. Et donc, tu as toujours gardé cette passion des couteaux. Est-ce que ta passion a évolué? Qu'est-ce qui te séduit aujourd'hui dans cette, je ne sais pas si on dit outil, instrument, je ne sais pas comment on peut qualifier le couteau?
Ça peut être un outil, oui, tout à fait. Oui. Moi, je le conçois comme un outil. Ce qui m'intéresse quand même dans le couteau, c'est ce rapport entre une lame et un manche. C'est-à-dire que c'est une chose très simple. C'est un outil qui a toujours existé depuis la préhistoire. C'était les morceaux de silex qui servaient à couper les peaux. Ça a toujours évolué. C'est devenu très perfectionné, mais ça reste un manche qui doit être ergonomique, qui est de la douceur, qui est dans les courbes, et une lame qui doit être tranchante. Et c'est l'assemblage de ces deux choses qui sont à la base très simples, qui font toute la beauté du couteau pour moi.
Alors je sais que tu vas souvent dans les coutelleries. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier achat ?
Le dernier achat, c'était pas dans une coutellerie, parce que c'était une commande. C'est une lame qui vient du Japon. Parce que le Japon reste quand même un des grands lieux de la coutellerie, sachant que les maîtres forgerons japonais, qui sont issus d'une tradition de forge, qui forgeaient d'abord les katanas, donc pour ces fameux sabres pour les samouraïs, ont perpétué ce savoir-faire et l'ont adapté à des objets tranchants comme les ciseaux à bois, les rabots, les lames de rabot et bien sûr les couteaux de cuisine. Et je pense que c'est eux qui ont poussé au plus loin la perfection dans les lames de couteaux. Donc le dernier, oui, c'était une grande lame de 24 cm forgée par un maître forgeron. C'est un acier sandwich avec au centre un corps en acier très dur qui permet d'avoir une sorte de rasoir sur sa table de cuisine. Voilà.
Donc, qu'est-ce que toi tu fais principalement aujourd'hui avec les couteaux? Déjà, tu en as combien de couteaux? Et qu'est-ce que tu fais principalement avec les couteaux que tu as acquis?
Combien? Je ne sais pas, j'en ai pas des centaines. Pour moi, les couteaux, ça reste utilitaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des couteaux que je collectionne dans une boîte ou dans une vitrine. J'ai un rapport direct avec le couteau. Il faut que je puisse l'utiliser. Il faut qu'il tranche toujours. Et je m'en sers au quotidien. Ça va être pour affûter mes crayons quand je dessine. Ça va être pour tailler un bout de bois, pour... Bien sûr, pour manger, pour lui. Ça reste vraiment un objet utilitaire en même temps.
Voilà, tu es sensible à l'esthétique, mais il faut que ça reste un objet utilitaire.
Oui. Pour moi, le couteau, l'anti-couteau, c'est un peu le couteau suisse, quoi. C'est ce gros machin tout rond là, qui sert à tout. Non, pour moi, le couteau, ça va être une chose très simple. C'est une lame et un manche.
Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ce que dit Jean-Michel sur le couteau Catherine?
Non, je découvre.
Oui, c'est vrai qu'on découvre.
Les objets coupants, c'est très intéressant. Surtout ce rappel avec le Japon. J'apprends des choses, c'est bien. Oui. Je suis ravie.
Je sais par expérience que Jean-Michel peut rester 2 heures dans une coutellerie à discuter couteau avec un autre passionné de couteau. C'est une vraie science.
Oui.
Ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'affûtage, parce que le couteau, c'est une chose, mais... Sans parler d'une science, mais il y a tout un art de l'affûtage qui est presque plus important que le couteau, quoi. Surtout dans la tradition japonaise. La perfection se fait par l'affûtage, quoi. Un couteau qui ne coupe pas, ce n'est plus un couteau.
Oui, mais pour toi, il faut que les couteaux coupent très bien.
Non, mais ce qui est aussi beau dans le couteau, tu parlais effectivement de ton premier couteau que tu as acheté. Je trouve aussi que c'est souvent le lien à la personne ou à une profession. Quand tu écoutes les paysans, les viticulteurs, ils ont tous l'opinel au fond de la poche, et ça pendant toute leur vie. Et ça, c'est fascinant, c'est beau, quoi. Comme...
Avant, les paysans, c'était le Pradel dans la région, après c'est devenu l'opinel, mais oui, ils avaient tous le couteau, c'était une évidence, quoi.
Ouais, moi, je me rappelle d'une personne qui avait son opinel depuis 40 ans, qui un jour a pris l'avion, il n'a pas fait attention, arrivé à l'aéroport et au contrôle, on lui a pris son opinel, mais il en aurait pleuré. Parce que du coup, on lui piquait quelque chose qui a été un ami pendant des dizaines d'années.
Mon grand-père, moi, n'a jamais quitté son couteau. C'est-à-dire qu'il avait un seul couteau qu'il avait toujours sur lui. Il mangeait avec ce couteau qu'il ne lavait jamais, qu'il refermait et qu'il avait dans la poche.
C'est beau ce lien.
Ouais. Donc, il y aurait de quoi dire ou quoi écrire sur le couteau. Alors, est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais une revue ou un livre à conseiller, soit un néophyte, un passionné de couteaux, mais qui...
En fait, en France, il existe 2 revues, surtout Excalibur et La Passion des Couteaux, qui sont, je crois, des bimensuels, qui parlent de couteaux, donc bien sûr de tout ce qui se crée et un peu d'historique sur les couteaux. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette découverte du couteau. Alors, je vais enchaîner avec... ma chronique mensuelle humoristique, parfois légèrement grivoise. Chronique calendaire croquignolesque, c'est le nouveau titre que je leur ai trouvé. Et bien, comme ça porte sur le mois en cours, aujourd'hui ça portera sur juin. Fils putatif de Junon, déesse protectrice du mariage aux allures de matrone, et de Lucius Junius Brutus, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le fondateur légendaire de la République romaine, il est qualifié de premier mois d'août par les futurs Brexités. Les cathos, fans d'amour et de mariage, mais uniquement entre personnes de sexe opposé, sinon ça vaut pas, le dédient au Sacré-Cœur. Juin, car c'est bien de ce mois couinant comme un canard enrhumé, dont il s'agit, est propice au dicton météorologique et autres conseils agricoles. Car si juin larmoyeux rend le laboureur joyeux, il faut tout de même savoir que juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. Il est bon d'ajouter que, contrairement à ce que certains pensent, le juin ne se fume pas. En juin, les saints au nom rétro sont à l'honneur, tels Prosper Youplaboum, roi du pain d'épices et du macadam, ou Médard, planteur de choux, mangeur de lard. Un dicton affirme « à la Saint-Barnabé, canard potelé ». Mais il ne dit pas si ça vaut aussi pour les bébés du jour. Juin est le grand ami des véganes bretons, adeptes de la galette. À la Saint-Potin, bonhomme, sème ton sarrasin. Mais il peut se montrer de mauvais augure pour les pochetrons. À la Saint-Landry, s'il tonne, restera vide la tonne. À ne pas confondre avec le proverbe quelque peu controversé, je l'avoue, à la Saint-Landru, s'il tue, sera flingué la tepu. En juin, le naturisme est plébiscité. À la Saint-Alban, on peut poser ses vêtements. Et les tendances exhibent, assumées. Montre-moi une olive à la Saint-Jean, je t'en montrerai mille. Invitons toutefois à la plus grande prudence ces exposants de coucougnettes qui, à l'approche de l'été, embusqués au tournant d'un chemin poussiéreux, égayent les touristes en ouvrant leur impair sans crier gare. Car, outre le fait qu'ils courent le risque de se faire cramer l'olive par un des nombreux feux de joie allumés le jour de la Saint-Jean, en l'honneur de Jean le Baptiste, hein, je le signale pour les ignares, il leur faut aussi se méfier des intempéries. Le dicton ne dit-il pas « La pluie de Saint-Jean emporte la noix et le gland ». Quand un autre renchérit « Du jour de Saint-Jean, la pluie fait la noisette pourrie ». Messieurs les exibes, vous êtes prévenus. Juin, aussi, ces balayeurs de rue, Saint-Pierre et Saint-Paul, lavent les rues de Saint-Martial et sont ravis de la crèche, temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant. Mais il est quelque peu misogyne. Il a très peu de saintes en son sein et deux d'entre elles, au moins, ont connu de bien cruels destins. Blandine, fêtée le 2, fut d'abord jetée en pâture aux lions qui firent la fine bouche et dédaignèrent cette romaine. Sans doute n'aimait-il pas la salade ? Contrarié, mettez-vous à sa place. Le bourreau finit par égorger cette vierge non comestible après l'avoir envoyée valdinguer sur les cornes d'un taureau. Après ça, Blandine a tout de même été promue patronne de Lyon et son bureau, lui, a été conspué par tous. Ouh, le méchant ! Quant à Germaine, fêtée le 15, déchirée entre la java et le tango, elle a fini par se casser à Katmandou, bien peu sensible à l'amour hashtag pastis que lui portait le chanteur Renaud. Germaine, Germaine. Bon, chacun sa croix. Côté fête, juin est un mois magnanime. Il y a celle des pères, non officielle, instaurée par une fabrique de briquets bretons, encore eux. Et celle de la musique, créée en 1982 par Jack Léventreur. Ah non, Léventreur, c'était son frère, pardon. En juin, à Honfleur, les marins pèlerinent, à Saint-Rémy-de-Provence, les transhumants transhument, à Nîmes, les pentecôtiers fériatent. Ailleurs, les mêmes bossent pour les vieux ou célèbrent les polyglottes. Car tous les chrétiens le savent, il y a un bail de ça. Hein. 50 jours après Pâques, d'où le nom Pentecôte, qui signifie 50e en grec, 120 disciples de J.C. ont reçu sur eux des langues de feu symbolisant l'Esprit Saint. Et ils se sont soudain mis à causer dans toutes les langues. Bon ben, entre la romaine qui dompte les lions sans même lever un sourcil et 120 gus frappés de glossolalie parce que l'Esprit Saint les a un peu léchouillés, les séries fantastiques peuvent bien aller se rhabiller. Ah, j'oubliais. Juin est aussi le mois des régimes express. Dans tous les magazines, on nous promet de maigrir sans faim en 3 semaines, perdre du ventre en 15 jours ou mourir de faim en 8 jours, mais en payant très cher. Mon conseil, qui ne te coûtera pas un copec aux collègues de cellulite et soulagera ta bourse à défaut d'alléger tes bourrelets, sera donc, en juin, si tu as faim, mange ta main. Et plutôt que de te ruiner en crème et sérum pour te dérider la face et les fesses, bois donc un coup avec tes potes. Ça fait exactement le même effet, c'est moins cher et c'est surtout beaucoup plus fun. En juin, ne te refuse rien. Et on va enchaîner avec Linda Lemay, ça pique.
Ça faisait 23 semaines que tu te grattais, tu te mutilais puis tu saignais du cou. On disait d'arrêter, mais on savait pas ce que t'avais. Puis quelqu'un nous a dit, c'est peut-être des poux. On t'a précipité dans le lavabo. On espérait que ce soit des pellicules. On t'a enduit des Head & Shoulders du front jusqu'au dos. Mais elles sont pas parties, les particules. On a pris une flashlight avec une loupe. On a dit, penche ta tête qu'on vérifie. C'est là qu'on en a vu allègrement sauter une couple. C'est là que la panique nous a pris. Il y avait des flocons blancs indélogeables et des saletés qui sautaient à la corde. tout plein de famille, de ce qui pouvait ressembler à des grains de sable qui te salivaient dessus puis voulaient te mordre. C'était soit ou bien on lave ou bien on coupe. T'as dit est-ce que c'est grave? On a dit oui. Quand t'as fondu en larmes, ton père et moi, on a dit oups, on a peut-être manqué de diplomatie. On a checké quoi faire sur Internet. On a acheté le traitement le plus sûr. On t'en a mis plein le crâne pour t'assassiner les insectes qui se faisaient des partous dans ta chevelure. C'était un après-shampoing super puissant. C'était écrit de le laisser 10 minutes. On te l'a laissé un bon vin juste pour être prudent. Quand t'as refondu en larmes, on a dit zut. Ça t'avait comme un peu amoché le cuir. Le fond de la tête te sentait le brûler. T'aurais dû te voir la face après quand tu nous as vu venir. Avec le petit mot t'as dit peigne aux dents trop rapprochées. Il fallait qu'on démêle et puis qu'on tire. Qu'on enlève toutes les lentes puis les corps morts. Je t'ai toujours dit que pour être belle ma fille fallait souffrir. Mais pour être propre il faut souffrir plus fort. On a changé les draps, les oreillers. On a mis tes peluches dans un grand sac. Toutes tes tuques et tes cache-cou, on les a fait congeler. On a désinfecté toute la baraque. Pou, 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 poulet, pou, 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 poulet, pou, pou, pou. Le détail qui a échappé à nos méninges, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui sont à risque. 2 semaines plus tard, ton père et moi, on se grattait comme des singes. Puis toi, t'as soupiré, maman, ça pique.
Vous êtes toujours sur Radio Calade dans l'émission Vagabondage avec Sylvie Calais et nos 4 invités. Et je vais donner la parole à Catherine Touvenin, que j'ai invitée parce que j'ai récemment bénéficié de ses soins de, je vais globaliser, de remise en forme, que j'ai recommandé à d'autres personnes qui se sont montrées très satisfaites des prestations effectuées. Donc je vais vous demander dans un premier temps de nous dire en quoi consiste votre activité, quelle est votre spécialité.
Oui, alors donc moi je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise. J'exerce depuis environ une quinzaine d'années maintenant, à Lyon d'abord, puis à Villefranche, et à partir du mois de juillet à Blacé dans le Beaujolais. Alors mon cursus, si vous voulez, moi c'est fait sur de nombreuses années d'études à Lyon et puis en France et à l'étranger, dans le domaine notamment de l'acupuncture. Voilà. Et aussi de l'acupression, parce que ça pique, c'est le thème de l'émission, mais on peut aussi soigner sans piquer au sens du terme, juste en acupression, et avoir aussi de très bons résultats.
Alors juste par rapport à ça, parce que l'acupuncture est peut-être plus connue, l'acupression un peu moins, quelle est la différence?
En fait, la base est la même, il y a quand même un protocole qui est établi en fonction d'un bilan donné, et fort de quoi, les points d'acupuncture vont être traités, mais avec un stylo, qui ne sera pas contendant, enfin pas coupant bien sûr, qui sera simplement sur les points d'acupuncture et vont produire les mêmes effets, notamment en cancérologie, dans le domaine de la douleur, dans le domaine de la gestion du stress aussi. Quel que soit l'âge, hein, les consultants peuvent avoir, on va dire, entre 3 ans et 99 ans. Voilà.
Oui, donc c'est bien pour les personnes qui redouteraient vraiment les
voilà.
Aiguilles.
Je crois qu'il faut que ça se sache, parce que moi j'ai un site internet qui va être fait, mais je n'insiste pas assez. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont rétives aux aiguilles, craignent, ça se comprend, hein, on ne va pas nécessairement... voilà, et c'est pour autant très efficace, il faut le savoir aussi.
Très bien. Alors, je vais vous demander quels sont vos domaines de prédilection. Mais auparavant, je voudrais dire que j'ai été sensible au fait que vous m'aviez bien dit, quand je suis venue consulter, que vous ne vous substituiez pas au monde médical.
Hein, oui, voilà. Donc, je vous laisse. Vous avez raison de le souligner. Effectivement, moi, chaque personne en France a un suivi médical avec son médecin traitant, ce qui est tout à fait naturel. J'ai souvent des personnes qui viennent, on va dire, en seconde intention, et pour lesquelles on va traiter notamment sur le domaine, sur plusieurs domaines, c'est-à-dire le domaine de la douleur, la prise en charge de la douleur, le rééquilibrage des énergies. Ça, c'est un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire que on va le traduire très simplement en évoquant stockant une digestion qui n'est pas bonne, voire vraiment mauvaise, un sommeil qui est entrecoupé, enfin qui n'est non récupérateur, une fatigue chronique, des douleurs articulaires, voilà, ça c'est un des volets. Un autre des volets qui est important et absolument pas connu en Occident, c'est la psychologie en médecine chinoise, qui est vraiment très intéressante parce qu'elle elle se place dans les thérapies brèves, si vous voulez. Donc en 4 séances, des personnes qui ont vécu un deuil, un licenciement, qui traversent des choses difficiles, un divorce ou même des questionnements profonds, vont pouvoir se trouver régénérés à la fois sur le plan physique, mais également, dans un certain nombre de cas, également sur le plan émotionnel. On est quand même en dehors d'un cadre de la psychiatrie que je ne prends pas en charge, bien évidemment. Mais pour tout ce qui est douleur émotionnelle, on pourrait dire, voilà, c'est quelque chose qui est pris en charge.
Oui.
Dans ces 18 années d'études que j'ai faites pendant toutes ces années, j'ai aussi développé le sevrage tabagique qui se fait en une séance et qui réussit dans 95% des cas. Acupuncture.
C'est un beau taux de réussite.
Voilà, disons qu'il y a un travail profond aussi qui est derrière. Et puis, enfin, pour ceux qui sont soucieux de leur apparence, eh bien, leur rajeunissement facial, où là, on va traiter de façon, en se basant sur l'optimisation des fonctions vitales, cœur, foie, poumon, rate, rein. On va se baser là-dessus pour relancer la dynamique vitale et rajeunir le visage en enlevant entre 5 et 10 années.
D'accord. Voilà. Et quelle a été pour vous l'expérience la plus marquante ou la plus probante? Enfin, celle qui vous vient à l'esprit, il y en a sûrement plusieurs.
Hein, oui, ouais. il y en a des milliers. Je pense que quand quelqu'un souffre énormément et n'a plus d'alternatives, plus tellement, bon, les médicaments agissent, mais parfois, ça fait longtemps que les gens prennent les médicaments. Dans certains cas, on a eu des résultats qui étaient très probants. Donc, de ne plus souffrir, ça, c'est quelque chose qui est très touchant et qui attire souvent les larmes aux yeux parce que c'est très dur de vivre avec la douleur. Personnellement, j'ai bien connu la question. Et puisque j'étais dans le domaine de la douleur jusqu'aux frontières de la mort après un accident, donc je sais ce que peuvent ressentir des personnes selon les différentes gradations. Et on y travaille sur différents plans, à la fois sur le plan physique, mais aussi émotionnel ou sur la mémoire de la douleur. Voilà.
D'accord.
Ça fait partie du travail que j'ai le bonheur de réaliser.
D'accord. Alors, je vais vous demander où on peut vous joindre, comment on peut vous contacter, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter avant ça? Quelque chose que vous auriez envie de dire spécialement par rapport à...
Écoutez, déjà, je voulais remercier Radio-Canada de m'avoir reçu, et puis aussi vous-même, Sylvie, c'est très touchant. On peut me joindre au téléphone au 06 07 21 72 55. Voilà, j'ai un cabinet à Villefranche qui va un petit peu bouger à 8 km dans les semaines qui viennent, mais le téléphone est toujours le même. Voilà.
D'accord.
Et si des gens sont intéressés, eh bien, il y a un livre que je peux recommander auprès d'un libraire, oui, qui est intéressant, qui s'appelle les saisons de l'énergie, les 5 saisons de l'énergie. C'était écrit par Isabelle Lading, L-A-L-2-A-D-I-N-G. Et ça explique, si vous voulez, de façon assez simple mais passionnante, me semble-t-il, le fonctionnement du corps selon le regard de la médecine chinoise au fil des saisons.
D'accord.
Voilà.
Et je sais que votre diagnostic pour avoir testé, hein, vous l'effectuez en prenant le pouls des patients.
Oui, moi je pratique une acupuncture traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas symptomatique, hein, c'est-à-dire qu'elle est, chaque bilan est unique et il est basé sur une anamnèse avec un certain nombre de questions. L'observation de la langue, on tire la langue et on y apprend beaucoup de choses. On peut voir l'état du cœur, du système digestif, du foie, de la vésicule biliaire, entre autres. Et les pouls chinois qui, eux, sont une vraie merveille, extrêmement utile. C'est-à-dire que ce sont des pouls qui sont situés au niveau des poignets, sur ce qu'on appelle la gouttière radiale, c'est le long du poignet. C'est un petit peu le même endroit que pour lequel on va tester le rythme cardiaque d'une personne en cas de nécessité, d'urgence. Pour autant, là, c'est tout à fait différent, puisque
on a une appréciation de la qualité et quantité d'énergie qui alimente les organes suivants, le cœur, l'intestin grêle, le cœur, la vésicule biliaire, le foie, la vessie, les reins, d'un côté, et de l'autre côté, c'est le gros intestin, les poumons, le système digestif, et puis également voir un petit peu au niveau psychologique l'estime de la personne, où elle en est.
Bien.
On comprend un certain nombre de choses. Oui, c'est intéressant.
Oui, oui, oui. C'est passionnant. Je crois qu'on pourrait en parler longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à joindre Catherine Touvenin au numéro qu'elle a bien voulu vous laisser. Puis elle aura un site prochainement également. Enfin, il y a déjà un site qui existe,
là,
mais
oui,
il est peut-être.
Oui, oui.
Voilà. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur Internet. Vous la trouverez facilement.
CatherineTouvenin.fr. Voilà. Merci.
Très bien. Merci, Catherine.
Merci beaucoup.
Alors, on va passer à un sujet. Tout à fait différent, hein, avec Sandra. Nous t'avons déjà entendu sur d'autres thèmes, mais il y a un hobby, un loisir dont tu ne nous as pas encore parlé, et c'est
la couture.
La couture. Mais d'où te vient cette passion de la couture, Sandra ?
Mais je vais avoir une réponse un petit peu dans la lignée de celle de Jean-Michel, parce qu'en fait, ça remonte aussi à l'enfance. À ma petite enfance, à l'époque, je passais mes vacances scolaires chez mes grands-parents paternels, qui étaient très jeunes, puisque quand je suis née, ils avaient 49 ans, donc ils étaient encore en activité. Et mon grand-père était tailleur d'habits. Il était tailleur d'habits, et donc quand j'allais chez eux, je passais du temps avec eux dans leur boutique, dans l'atelier. Et je ne me souviens pas avoir eu beaucoup de jouets ou de livres avec moi, et donc j'observais beaucoup ce qui se passait, et donc je regardais mon grand-père, ma grand-mère, voilà, en pleine activité. J'observais beaucoup, et j'avais un tout petit peu le droit de coudre, mais pas à la machine, donc de faire des petits points réguliers. J'ai appris aussi à faire des boutonnières, voilà, et puis je fabriquais aussi des petites poupées avec des épaulettes, en fait, de costumes que j'avais le droit de piquer dans une grosse boîte. Voilà, donc je fabriquais des petites poupées en chiffon auxquelles je rajoutais des petites pièces de dentelle. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait.
D'accord, donc ça fait longtemps quand même que tu,
ah oui,
tu t'adonnes à la couture. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fabriques ou qu'est-ce que tu réalises ? D'ailleurs, je ne sais pas depuis combien de temps tu t'y es remis.
Ah ben, je m'y suis remis il y a très peu de temps, en fait, parce que j'ai laissé, je dois dire, ma créativité en jachère pendant de nombreuses années à cause d'une activité professionnelle très prenante. Et c'est avant d'arriver à Villefranche, en juin 2014, que j'ai acheté une machine à couture et que j'ai repris contact avec ma créativité, avec toi aussi, dans le domaine de l'écriture, voilà, en allant à tes ateliers d'écriture, et dans le domaine de la couture. Et donc, je me suis mis à fabriquer des sacs. Et quelques vêtements pour mon usage personnel, après avoir beaucoup acheté des vêtements, voilà, chez des couturiers. Enfin, j'ai beaucoup fait ça. Aujourd'hui, je fabrique, et j'aime bien composer, assembler, récupérer, recycler. Donc, par exemple, quand je fabrique des sacs, j'aime bien récupérer des anses d'un vieux sac d'un côté. J'achète du tissu, mais je recycle aussi des tissus de vêtements pour fabriquer ces sacs. Et je fais un petit peu la même chose avec les vêtements, c'est-à-dire j'aime bien composer des vêtements. Je suis très sensible au tissu, au motif, à la couleur, et donc j'aime bien composer des choses avec beaucoup de motifs et chercher comment agencer des motifs qui peuvent être très très différents, qui a priori ne se marient pas bien. Et chercher comment trouver un équilibre en agençant des tissus unis et des motifs, et pour faire un ensemble harmonieux.
Très bien. Et est-ce que ce sont des créations que tu gardes pour toi ou que tu diffuses d'une façon ou d'une autre ?
Je ne les ai pas encore diffusées, j'y pense, notamment.
D'accord.
En ce qui concerne les sacs, parce que c'est des choses que beaucoup de femmes apprécient, dont elles aiment changer. Donc oui, un jour ou l'autre, quand je commencerai à avoir un petit stock un peu imposant, je les montrerai ou oui, je les proposerai.
Donc pour l'instant, on ne peut pas les voir, c'est caché. Bon, en même temps, là, nous sommes à la radio, donc de toute façon, nous aurions été frustrés. D'accord. Et qu'est-ce qui est agréable pour toi dans la couture? Qu'est-ce qui est peut-être plus compliqué?
Ce qui est agréable en fait, c'est ce travail en fait de composition, d'esthétique, parce que pour rejoindre aussi ce que disait Jean-Michel, ce que j'aime moi dans l'habit, c'est le côté utilitaire. Et en même temps, la recherche d'esthétique qu'on peut avoir quand on appréhende la création d'un vêtement, rechercher cette harmonie, cette esthétique. Donc vraiment, j'aime cette recherche, j'aime les tissus, je suis beaucoup moins intéressée par la coupe. J'aime trouver des coupes simples, saillantes, et ensuite les répéter avec des tissus différents, des tissus qui viennent du sud notamment. Enfin, je suis très inspirée par le sud, par l'univers de la tauromachie. À une époque, j'allais m'habiller à Nîmes, je descendais expressément à Nîmes pour aller acheter des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs à l'époque, des coupes très féminines, certains imprimés, des chambrées avec des taureaux, des choses comme ça. Et donc, c'est un univers que j'aime beaucoup, et d'autres tissus traditionnels m'inspirent beaucoup aussi, le Mexique, le Tibet, voilà, donc ces compositions, ces recherches de compositions qui m'intéresse. Ce qui est plus difficile, c'est précisément autour de la coupe, parce que je suis plutôt créative mais pas très bonne technicienne, et comme je n'ai pas appris vraiment à coudre en fait, je fais beaucoup d'approximations, notamment au moment du patronage. Donc je bricole des patrons, j'utilise des anciens vêtements pour faire des patrons, et donc ça donne des résultats après la coupe qui sont souvent assez aléatoires, même si je prends les mesures, mes mesures ou les mesures d'autres. Mais ça me donne souvent l'occasion d'être obligée de rajouter des bouts de tissu pour élargir un peu quelque chose qui est trop étroit. Donc là, je retombe sur la composition et les recherches de tissu, ce que j'aime bien. Mais c'est vrai que du coup, ça me demande beaucoup de cet aspect technique, beaucoup d'énergie et de disponibilité. Et voilà, je n'ai pas tout le temps cette disponibilité, quoi, et j'ai une petite appréhension de ces obstacles techniques, entre guillemets.
D'accord, bon, à bon entendeur ou entendeuse, salut. Je sais pas si on pourra t'aider.
C'est souvent le tissu qui fait la robe.
Oui.
Hein,
oui.
Plus que la façon. Oui. 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 C'est marrant parce que j'étais passionnée de couture quand j'étais jeune. Oui. J'ai un peu changé de tissu.
Oui.
Plus c'est la peau.
Oui. Oui.
C'est
bon. Très bien. On trouve toujours du lien dans ces émissions, oui, les uns avec les autres.
Oui,
donc je vous propose une seconde pause musicale avec Jane Birkin, le couteau dans le play. À très bientôt.
Ne remue pas, s'il te plaît, le couteau dans le play. Plus de flashback, ni de comeback. Les larmes, c'est ton playback complet. Je sais, c'est moi qui ai tout fait, oui, j'ai tout fait. Si j'en claque, je m'en fous, je tac. Oh, pour ma gueule, c'est bien fait. Tant pis si c'est fini. Ou tant mieux, si tu veux. À qui la faute à toi, moi. S'il te plaît, de jouer overplay. Ton blues en black, c'est de l'arnaque. Reconnais-le si tu es fermé. Tant pis si c'est fini. Ou tant mieux.
tu veux. À qui la faute à toi, à moi. Ne remue pas, s'il te plaît. Le couteau dans le plaid. Tu mets en vrac tout dans le même sac. Les faux sentiments et les vrais. Tu ne sais pas si je sais que tu m'as prise à l'essai. L'amour opaque, gamin au black. Jack t'a gagné, perdu, vite fait. Tant pis si c'est fini. Ou tant mieux si tu veux. Qui est là, faut à toi, à moi. Ne remue pas, s'il te plaît. Le couteau dans le plaid. Plus de flashback, ni de comeback. Les larmes, c'est un playback complet. Je sais, c'est moi qui ai. J'ai tout fait, oui j'ai tout fait. Et si j'en claque, je m'en fous, je suis dingue. Or pour ma gueule, c'est bien fait. Tant pis si c'est fini. Ou tant mieux si tu veux. Tant pis si c'est fini. Ou tant mieux.
Vous êtes sur Radio Calade dans l'émission Vagabondage qui a pour thème aujourd'hui ça pique ou ça coupe, mais ça fait du bien. Et à ce sujet, Bertrand va nous parler de jardinage. Bertrand.
Sylvie.
Oui.
Alors, quand Sylvie a parlé de ce thème, ça pique ou ça coupe, mais au final, ça fait du bien. Et je me suis dit, ben, le jardinage, bien sûr. Alors, le jardinage, pour rebondir sur Jean-Michel et Sandra qui évoquaient l'enfance, moi, je me rappelle, quand j'étais tout gamin dans le bac à sable, j'essayais de faire planter de mettre des petites graines de haricots dans le bac à sable. Et je peux vous dire que ça poussait. Donc, fierté d'enfance. Alors après, j'ai pas mal jardiné. Et je me suis dit, ben, en fait, oui, ça coupe. Ou ça pique. Alors j'aurais envie de commencer par juste deux ou trois belles fleurs. Et je suis sûr que vous avez tous en tête la rose, le rosier. Et c'est vrai que c'est l'une des plus belles fleurs que l'on connaisse. Et elle pique. Et elle peut piquer sacrément, cette rose. Et donc, évidemment, couper ces rosiers, couper effectivement une belle rose pour la personne aimée ou pas, mine de rien, ça pique. Et puis, en y pensant, en repensant, j'y pensais aussi à une fleur, je ne sais pas si on peut appeler ça une fleur, que j'ai toujours beaucoup aimée. Mais alors qu'on ne peut pas prendre comme ça, c'est le fameux chardon bleu. Et c'est très beau, c'est le long des chemins, comme ça, moment de balade. Et effectivement, y a les sangans et autres, ça pique sacrément. Alors on en aurait plein comme ça, d'exemples. Et j'ai voulu faire le lien avec les outils. C'est-à-dire que un jardinier, il a des outils. Et quand on fait ça dans notre petit jardin, etc., on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui piquent, qui coupent. Alors moi, j'ai un outil fétiche, qui est la grelinette. Alors la grelinette, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bêche. Alors, certains diraient écolo, mais il n'y a rien d'écolo plus que ça. C'est que, on est les pointes, il y en a trois en général, ou plus, et donc le bout est piquant. Mais ça permet de retourner la terre plus facilement, de préserver nos jolies vers de terre, que d'ailleurs ne s'empêche pas. Moi, quand je collinais, j'avais des poules autour, et elle aussi, je peux vous dire qu'elle piquait sacrément pour essayer de choper le ver de terre avant moi. Et voilà. Et puis, c'est tout simplement ce que moi j'appelle un coup de coupe, c'est une sorte de petit sécateur. Et là, je peux vous dire que je me suis souvent fait piquer, couper avec ça, comme le sécateur tout court d'ailleurs. Et puis pour finir, je pensais à... Moi, je ne suis pas du tout bricoleur.
Ah bon ?
Mais
non.
Sylvie, je ne suis pas bricoleur. Merci de le mentionner. Et du coup, bah, on a toujours quand même besoin pour je ne sais quel petit rafistolage de pointe. Et combien de fois on se pique quand on cherche une pointe, quand on se... Et au final, tout ça, on a bien beau être piqué, coupé et autres, à la fin de la journée, quand on a bien jardiné, avec la grelinette, avec le sécateur, avec la terre surtout, eh ben on est totalement heureux. Donc, merci le jardinage qui coupe, qui pique, mais qui fait du bien.
Wow. Et juste, je réclame une confidence, puisque tu as parlé de rose, tu as parlé de chardon, mais quelle est la fleur que toi tu préfères ?
C'est-à-dire qu'il faut que je réponde en 4 secondes.
Voilà, t'as pas une fleur fétiche que tu la jardines ou pas d'ailleurs ?
Alors j'ai des fleurs que j'aime bien, surtout pas la rose, je sais pas pourquoi. C'est plutôt moi, en fait c'est pas des fleurs, c'est la vue lors de balades, quand on marche le long d'un pré, et ce pré au mois de mai qui fleurit, qui a 10, 20, 30 fleurs différentes, et je trouve que c'est les plus beaux tableaux de la nature qu'on peut avoir, et voilà, c'est les fleurs des champs. Ce sont les fleurs des champs.
Voilà. Bertrand est un homme bucolique. Nous le saurons désormais.
Oui, Sylvie.
Merci beaucoup pour cet éloge au jardinage. On va demander à Sandra qui avait un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si c'est un film ou un livre que tu voulais nous présenter.
Je voulais vous parler d'un livre que je viens de terminer, qui est Surface, un polar d'Olivier Norek. Que vous connaissez peut-être. Moi, je ne le connaissais pas.
Non, je ne le connais pas non plus.
Je l'ai découvert grâce à un blogueur littéraire. Donc voilà, j'ai entrepris cette lecture. Et en fait, j'ai appris qu'Olivier Norek a été capitaine de police pendant 18 ans au sein de la police judiciaire dans le 93. Et effectivement, ça se sent. J'ai lu pas mal de polar, j'apprécie le polar, et là je trouve que c'est un récit vraiment marqué par la véracité. Enfin, on sent que c'est vécu, et ce réalisme sert vraiment l'intrigue. Et dans cette histoire, en fait, on suit une héroïne qui est elle-même Noémie, qui est elle-même capitaine de police, et l'histoire démarre au moment où elle et son équipe attendent 6 heures précises, 6 heures du matin, pour rentrer dans le domicile d'un dealer pour l'arrêter, puisqu'il travaille au stup. Et là, je ne dévoile pas l'histoire, mais les choses ne vont pas du tout se passer comme ce qui était prévu. Et quelques mois après, on va retrouver cette capitaine de police au fin fond de l'Aveyron, dans un tout petit commissariat, là pour regarder si ce commissariat va pouvoir continuer à rester en place ou disparaître, tellement il y a peu de choses à faire. Et là, le lecteur est légèrement inquiet, parce qu'on se dit, mais où va-t-on trouver un crime dans ce coin perdu? Et c'est sans compter sur un cold case, en fait, que cette jeune femme va résoudre. Voilà, donc c'est plein de rebondissements, très très bien documenté, voilà. Et donc ça m'a donné envie de lire sa trilogie, parce qu'avant ce livre, en fait, il a écrit une trilogie qui met en scène toujours un capitaine, mais cette fois un homme, le capitaine Coste, et qui raconte aussi des affaires criminelles. Voilà, donc je recommande chaudement.
Donc tu peux nous redire le titre?
Le titre, c'est Surface d'Olivier Norek.
Donc je suppose qu'on le trouve à la librairie des Marques.
J'imagine.
J'espère.
Parfait.
En fait, oui. C'est un roman, un polar à couper le souffle.
Voilà. Merci de faire le lien avec le thème. Puisque j'allais dire, il n'y en a pas forcément, mais c'est vrai qu'il est d'usage aussi dans cette émission d'évoquer ces coups de cœur littéraires, culturels, artistiques. Est-ce que vous auriez d'autres coups de cœur à évoquer, Jean-Michel ?
Coup de cœur, je peux parler du livre que je suis en train de lire. C'est pas tout à fait récent, parce que c'est Tony Hillerman. C'est aussi des polars. Tony Hillerman, c'est un Indien qui donc sous la forme des polars, parle beaucoup de toute la communauté indienne aux États-Unis. Donc il y a toujours un fond d'ethnologie très intéressant. Et indépendamment de l'intrigue, je pense que ce qui est intéressant, c'est toute cette culture, ce rapport à la culture indienne qu'on retrouve. Lui, c'est un Navarro, et voilà.
Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un connaît Tony Hillerman ?
Non,
mais ça a l'air très intéressant.
D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut évoquer un coup de cœur ? Moi, j'ai lu il y a quelque temps le Goncourt. Hein, c'est pas très original. Leurs enfants après eux, mais que j'avais beaucoup aimé. Vraiment, je suis rentrée. Je trouve qu'on rentre très facilement dans cette histoire. Et voilà, j'ai envie de vous lire quelques lignes de l'auteur. Au départ, on pourrait tenter cette hypothèse. Un roman, ça s'écrit toujours à la croisée des blessures. Ici, j'en verrai trois, disons les miennes. D'abord, l'adolescence. J'ai été cet enfant qui finit, qui rêve de sortir avec la plus belle fille du bahut et veut sa part du gâteau. L'autre plaie, ce serait celle du social et des distances. Quand j'étais petit, on m'a raconté un mensonge, que le monde s'offrait à moi, tel quel, équitable, transparent. Quand on veut, on peut. Mais un jour, peut-être grâce au livre, le voile s'est déchiré et j'ai commencé à comprendre. Enfin, il y a ce départ. Je suis née dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix. Le monde des fêtes foraines et du picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagnes petits, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans. Ce monde, je n'en serai plus jamais vraiment, j'ai réussi mon coup. Et pourtant, je ne peux parler que de lui, alors j'ai écrit ce roman, parce que je suis cet orphelin volontaire. Voilà, leurs enfants après eux. Et j'aimais beaucoup cette présentation de son roman. Bertrand, en tant que libraire, je pense que tu as aussi des livres à nous conseiller, des coups de cœur de la librairie des Marais, peut-être des manifestations aussi à annoncer.
Ah oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Alors, trois coups de cœur qui assez différents. Alors, commençons par la BD pour un petit peu changer. On commence toujours par les romans. Jean-Marc Rochette avait, alors, longue histoire et beaucoup de choses de Jean-Marc Rochette, mais le dernier, c'était Elle froide. Son amour de la montagne, son amour des Alpes, qu'il a eu très tôt. Et donc, dans Elle froide, il avait fait ses premiers pas en montagne quand il était adolescent, avec toutes les difficultés que cela représentait. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Le Loup. Et c'est absolument extraordinaire, autant sur le graphisme, qui est toujours assez sec, assez rude, un peu comme une lame de couteau. Mais c'est aussi une histoire totalement bouleversante. Il y a Gaspard, ses moutons, son chien et une louve. Et à partir de là, ça va durer à la fois dans la notion de la chasse, mais aussi effectivement de la rencontre. C'est absolument magnifique. On peut continuer avec La vie en rose. Alors La vie en rose, c'est Marin Le Dain, que d'ailleurs on avait reçu il y a quelque temps dans le cadre du Quai du Polar, et qui a fait beaucoup de polars. Et là, il prend un autre chemin. Alors La vie en rose, c'est un petit peu comme la famille Malocène de Daniel Pénac. Là, on retrouve une sorte d'autre famille qui est les Mabille Ponce. Alors c'est une famille loufoque, foutraque, à qui lui arrive plein d'histoires. Et donc, Marin Le Dain nous offre avec cette vie en rose, une aventure. Il y a des meurtres, il y a des cambriolages, il y a une grossesse. On ne s'ennuie pas. Et surtout, c'est génial. Hein.
Donc, c'est un ouvrage, pour adultes.
Oui, quand même.
Oui,
quand
non,
même.
Mais parce que je crois me souvenir, je me trompe, donc il écrivait aussi des ouvrages pour les enfants,
voilà,
pour la jeunesse.
Un, je crois, un,
un
ou
seul,
deux.
D'accord. Ouais. D'accord, donc là c'est un ouvrage
et
pour
adultes. Et pour finir, un petit poche, et un poche qui pourrait être un poche de l'été. Ça s'appelle « Comme une mule qui apporte une glace au soleil » de Sara Lapido Manica. Alors en fait, c'est tout simplement l'histoire de Morayo. C'est une femme qui a 75 ans, qui habite à San Francisco, qui est d'origine nigériane. Pardon. Accident. Et elle se retrouve en maison de, on va dire, de convalescence. Elle a vraiment, vraiment, vraiment peur de s'ennuyer, surtout que c'est une sacrée bonne femme. Et en fait, il va se passer sur 150 pages toute une série de conneries, d'aventures. C'est voilà, un vrai petit bijou d'été à lire au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, mais surtout, surtout transat. Ah. Voilà, vraiment trois jolis coups de cœur. Et puisque Sylvie, tu parles d'événements,
oui.
Alors ça va durer tout au long du mois de juin, hein, mais il va y avoir une très belle pause culture le 7 juin avec Lucie Lacour, violoncelliste, à 12h30, 7 juin, très chouette. Le lendemain, très content, il y a très très longtemps que je voulais l'inviter, qui est Mohamed El Amraoui, qui est un poète, un auteur d'origine marocaine et qui déclame sa poésie. C'est totalement magnifique. Et il sera accompagné par Marie Rubens au niveau de la musique, qui est aussi une belle artiste du Beaujolais.
Alors, on a eu l'occasion avec Jean-Michel de voir un petit extrait de ce spectacle. C'est vraiment magique. Je vous invite vraiment à vous rendre à la librairie des Marais. Tu disais le 8 juin.
Donc, le 8 juin, samedi 8 juin à 11h30.
À 11h30.
Voilà. Et puis rapidement, 12 juin, 19h30, les coups de cœur de l'été pour le Cercle de l'Ivresse littéraire. Et puis, une grande journée un peu festive, un peu été, le 29 juin, samedi, où il y aura différentes personnes, etc., etc. Et voilà.
Très bien, merci Bertrand.
Merci à toi.
Donc, avant de repasser la parole à Sandra pour un dernier coup de cœur, je voulais juste vous parler un petit peu de l'association Écriture et Papyrus, à laquelle je collabore étroitement. Pour vous dire que notre programme pour l'année 2019-2020 est sur le site, avec plein de nouveautés cette année, un atelier sur les techniques narratives, également un atelier d'écriture créative pour les adolescents, un stage sur la nouvelle policière, courte, hein, puisqu'il s'agit d'un stage d'une journée, plus les ateliers habituels. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site écriture-papyrus.com pour découvrir notre programme. Et peut-être, Sandra, si tu veux bien nous livrer un dernier coup de cœur.
Un dernier petit coup de cœur, c'est un film, cette fois, qui s'appelle « Venise n'est pas en Italie », un film de Yvan Calberac, avec Benoît Poulvorde et Valérie Bonneton, et deux jeunes acteurs qui jouent leur fils dans l'histoire, qui sont très, très prometteurs. Et ce film met en scène une famille un peu atypique, un peu en marge, et sous couvert d'une comédie française, d'une bonne comédie française, je trouve en fait que on a un film très très délicat qui vient parler de la honte, de la différence sociale, de la tolérance. Voilà, et c'est vraiment un très très joli film, très très délicat, très sensible.
D'accord.
Avec une petite touche comique, notamment avec Monsieur Poulvorde, qui s'en donne évidemment à cœur joie, mais pas trop quand même, qui sait garder une certaine sobriété.
Alors pour la petite histoire, Benoît Poulvorde va venir tourner à Pharens les 27 et 28 juin, sur un film inspiré du livre de Serge Chalandon, si je ne dis pas de bêtises, Profession du père. Voilà, donc il sera à Pharens les 27 et 28 juin. D'accord.
Et Venise n'est pas en Italie, c'est d'Yvan Calderac.
Oui, d'Yvan Calderac.
Qui avait fait ce livre, qui a eu beaucoup de succès.
Oui, c'est vrai. Catherine, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose pour conclure?
Non, j'ai été attentive et intéressée à tout ce que chacun a dit.
D'accord.
Et c'est vrai que ça donne envie de lire ce que vous avez dit.
Oui, c'est le but.
Ou de voir, oui, effectivement.
Est-ce que...
Moi, je voudrais juste rajouter un tout petit mini coup de cœur qui est un peu ancien aussi, parce que c'est la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes que j'ai mis du temps à lire. Voilà, je trouve que néanmoins, c'est vraiment un livre reflet d'une époque, une espèce de Zola contemporain, j'ose la comparaison, en plus trash et voilà, en plus.
Donc c'est bien trois tomes, hein,
oui, c'est trilogie. Trois tomes.
Et tu as lu les trois tomes.
J'ai lu les trois tomes, voilà, c'est d'accord. Pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est vrai que j'ai lu le premier, après j'ai calé sur le deuxième, parce que c'est quand même assez dur, comme souvent avec Virginie Despentes, mais je trouve que c'est vraiment le reflet d'une époque et ça vaut le coup. Donc allez-y, entamez les trois tomes.
Non, c'est très très bien. Ouais. Ouais, ouais.
Ah, c'est vrai que personnellement, j'ai quand même un coup de cœur pour le premier, plus que pour ceux qui viennent après. J'ai une petite baisse de régime pour le deuxième, après j'ai bien aimé
le troisième. Mais avec le troisième, ça remonte.
Oui, avec le troisième, ça remonte. Ça, c'est une impression personnelle, mais oui. Donc vous êtes sur Radio Calade, dans l'émission Vagabondage, et je vous propose une dernière pause musicale avec Renaud. J'ai la vie qui me pique les yeux.
J'ai la vie qui me pique les yeux. J'ai mon petit cœur qui est tout bleu. Dans ma tête, je crois bien qu'il pleut. Pas beaucoup, mais un petit peu. J'intéresse plus à grand chose, même pas fatigué, je me repose, je bois la vie à toute petite dose, je vois plus la couleur des roses, dans ma guitare, y'a plus rien, plus une note, plus un refrain, dans mes doigts, y'a rien qui tient, dans ma peau, y'a que du chagrin. La vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut, pas beaucoup mais un petit peu, au bistrot du temps qui passe, je bois un verre à la terrasse, je me dis qu'à l'école de l'angoisse, je suis toujours le premier de la classe, me racontez pas d'histoire, la vie c'est une tonne de cafards, c'est toujours un fond de tiroir, c'est toujours un train qui part, j'ai la vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut, pas beaucoup mais un petit peu, je voudrais vivre rien qu'en vacances. Ce soit tous les jours Byzance, ce soit tous les jours l'enfance, dans un monde que d'innocence, mais je vis au fond d'un abîme, tout seul avec ma petite frime, et dans mon dictionnaire de rimes, avec amour, y'a que des primes, la vie qui me pique les yeux. J'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut, pas beaucoup mais un petit peu, alors le soir avant que je me couche, j'écoute chanter la pauvre souche, les mots qui sortent de sa bouche, ça me fait tout drôle et ça me touche, et tout au fond de sa détresse, je découvre tellement de tendresse, que même si je tombe et que je me blesse, je dis bonne nuit à ma tristesse, j'ai la vie qui me pique les yeux, j'ai mon petit cœur qui est tout bleu, dans ma tête je crois bien qu'il pleut, pas beaucoup mais un petit peu, j'ai la vie qui me pique les yeux, heureusement je suis amoureux, petite fille qui me rend heureux, pas beaucoup, mais un petit peu.
Nous sommes encore pour une ou deux minutes sur Vagabondage, sur Radio Cada, pardon, sur Radio Calade, excusez-moi, j'en bégaye, avec nos quatre invités que je vais saluer. On a commencé avec Jean-Michel Debilly, sculpteur, qui est venu nous parler de couteaux. Bonsoir et merci Jean-Michel pour ta participation à l'émission.
Bonsoir. Toi.
On a continué avec Catherine Touvenin, qui est acupunctrice. Merci de nous avoir présenté votre activité.
Merci, merci à vous aussi pour votre accueil.
Et bonsoir. Ensuite, Sandra nous a parlé de couture. Bonsoir, bonsoir. Sandra. Et Bertrand nous a livré son éloge du jardinage. Bonsoir, Youpi. Bertrand.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high.